إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شر أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على صفوة الخلق المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، donc dans ce dans pendant ce cours nous allons voir la différence qui peut exister donc entre les savants. Donc le premier élément, c'est ce qu'on a déjà parlé, c'est que, est-ce que, en fait on va aborder ça en termes de questions. Est-ce que un hadith sahih est une preuve? La réponse est oui. Le hadith sahih et le hadith hassan peuvent être utilisés comme une preuve incontestable pour se justifier. Mais ils ne sont une preuve incontestable que dans un argumentaire précis et non pas dans un argumentaire contre une école juridique. Pour la simple raison que les hadiths que nous considérons comme sahih, ceux de Muslim et Bukhari et d'autres, sont postérieurs aux écoles juridiques. Et donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas se référer à des hadiths qui ont été classés après. Donc la base, si vous avez des hadiths sahih dans certains, dans une certaine école et dans d'autres écoles, c'est que les propres savants, donc Malik, Abu Hanif, Al-Shafi'i et Ibn Hanbal, ont considéré que eux, ils ont leurs propres critères de sélection. Donc on peut toujours avancer un argumentaire pour prouver qu'on a raison, mais en aucune manière il est autorisé de décrier ou de critiquer une école juridique parce qu'elle n'utilise pas un hadith sahih. D'accord? Ça, c'est la première question. Maintenant, que faire? Deuxième question, c'est que faire quand on a deux hadiths qui ont le même poids, mais qui sont contradictoires? Donc, ils peuvent être tous les deux hassan ou sahih. Ou Hassan ou une autre classification, n'importe laquelle, mais qui sont contradictoires l'un avec l'autre, qui disent deux choses qui s'opposent. Est-ce que vous comprenez la question? D'accord. Alors, dans ce cas-là, il y a plusieurs manières, les savants utilisent plusieurs manières. D'abord, ils cherchent à voir, la première des choses qu'ils cherchent à voir, s'il y en a un qui a aboli l'autre. Eh non, ce n'est pas forcément contradictoire. Est-ce que l'un... Non, c'est le hadith, on parle de hadith là en règle générale. On peut avoir des hadiths qui sont contradictoires. Par exemple, le hadith contradictoire, c'est La'anallahu zayarat al-qubur, Dieu maudit les visiteuses des tombes. Et l'autre hadith, je vous ai interdit la visite des tombes, maintenant visitez-la. Parce qu'elle vous rappelle la mort. On a deux hadiths qui sont contradictoires. Un qui maudit les femmes qui visitent les tombes, et l'autre qui dit, je vous ai interdit la visite des tombes, alors maintenant visitez-la. Donc on voit très bien que le deuxième hadith vient abolir le premier, parce qu'il dit, je vous ai interdit. Là, il est clair que l'un annule l'autre. Mais ce n'est pas le cas dans tous les hadiths.
Si.
Justement, le hadith vient dire, je vous ai interdit la visite des tombes, maintenant vous pouvez les visiter. D'accord? Mais les savants vont dire non, l'un n'interdit pas. En fait, l'interdiction pour eux vient aux hommes et les femmes sont toujours interdites. C'est l'école wahhabite par exemple, ou hanbalite. Ou les autres vont dire, oui, alors là on rentre dans plusieurs catégories, l'autre ils disent, ça concernait que les hommes, ça ne concerne pas les femmes, donc l'autorisation est aux femmes, est aux hommes, non pas aux femmes. Et l'autre il dit, non, c'est aux hommes et aux femmes, mais Zayarat al-Qubur, c'est les pleurnicheuses, en fait, c'est les femmes qui viennent tous les jours pour pleurnicher sur les tombes. Cela, c'est interdit. Mais si une femme va une fois par mois, visiter la tombe de ses parents une fois par an. Et surtout, si elle a un comportement digne dans le truc, c'est pas interdit. Encore, vous voyez, les gens vont.
Le jour de l'enterrement, les femmes ne rentrent pas dans le truc, non ?
Si, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'elles rentrent. Il n'y a qu'un hadith qui vient.
Moi, j'ai vu qu'ils se mettaient derrière, je pense.
Oui, mais ça, c'est des traditions. Okay. Ça n'a rien à voir. Moi, je parle de hadith actuellement. On rentre dans un truc qui est les savants, justement, par rapport au hadith-là. C'est-à-dire que ce qui est exigé, Zayarat, c'est les femmes pleurnicheuses. En fait, il existait une tradition du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam où on payait des femmes pour venir pleurer. Et plus l'homme était riche, plus on payait de femmes qui venaient pleurer pour montrer qu'il était regretté par les gens. Donc, ces pleureuses, ça existait aussi très bien en Europe.
Oui,
oui.
On voit plein de pleureuses qui
existaient.
Ouais.
Mais ça existait dans toutes les civilisations. On payait des pleureuses pour venir. Et le prophète a interdit ça. Il a interdit beaucoup de choses, de déchirer les vêtements en signe de deuil, comme le font les juifs et les chrétiens aussi. Maintenant, ils ne font plus les chrétiens, mais les juifs le font toujours. Il y a beaucoup de signes. C'est des signes extérieurs. D'abord, la peine. L'islam n'est pas contre la peine de perdre un être cher, mais elle ne doit pas empêcher de le sortir de son contexte naturel. C'est que c'est la continuité de la vie. On naît, on meurt, on retourne à son Seigneur. On peut avoir de la peine, mais le prophète a limité la peine à quelques jours, trois. On ne peut pas vivre toute sa vie dans la mémoire d'une personne qui est morte. Sinon, on est quelque part mort avec lui. Donc, le hadith, on a deux hadiths contradictoires. Donc, la première des choses, pour revenir à ce que je disais, c'est de voir si l'un abolit l'autre. Et là, dans ce cas-là, on voit très clairement que le truc. Mais d'autres personnes disent non. En fait, on peut rassembler les deux hadiths. Ça, c'est la deuxième catégorie des gens. Donc, on a deux hadiths contradictoires, mais on peut les mettre sur le même niveau. Ils viennent pas un à l'une et l'autre, ils viennent complémentaires. Donc, dans ce cas-là, l'autorisation des femmes pour aller au cimetière est permise, mais c'est les pleurnicheuses, c'est les pleureuses qui sont interdites, qui restent interdites. Et d'autres vont dire non, c'est les hommes maintenant qui vont aller au cimetière, mais les femmes restent toujours interdites.
Il n'y a pas de hadith qui aux hommes de...
Si, si. Si. Le prophète avait interdit d'aller aux tombes.
D'accord.
Donc, pour tout le monde. Il avait interdit la visite des tombes. Parce que, justement, il y a un culte qui est porté aux morts et que le prophète voulait abolir. D'accord. Il y a une espèce de culte des ancêtres qui existe dans toutes les civilisations et l'islam, le concept arabique des clans étaient basés sur le culte des anciens. On n'existe que parce qu'on a un père et parce qu'on a un grand-père. Une personne n'existe pas lui-même. D'ailleurs, il s'est resté. Ça n'a jamais été oublié, ça. L'existence du fait de l'appartenance au clan a toujours, le tribalisme a toujours existé jusqu'à nos jours. Et même maintenant, c'est devenu pire puisque il y a le nationalisme, le fait d'être Tunisien, Égyptien, Syrien, enfin, il y a des clans à l'intérieur du truc, le tribalisme, un truc. Mais par exemple, on a des hadiths où quelqu'un insulte Salman al-Farisi, un des compagnons du prophète, et tellement près du prophète que le prophète, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Salman minna, c'est-à-dire Salman appartient, c'est un chrétien qui s'est converti, qui était acheté un esclave, il a dit Salman, c'est-à-dire qu'il a dit il est de ma famille. Salman est de ma famille. Donc pour dire la projeté qu'il y a. Et un jour, quelqu'un s'est insulté Salman, lui disait mais dis-moi qui est ton père. C'est pour lui dire tu ne vaux rien. Parce que tu n'as pas de père. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas de père, ton père n'est pas connu, donc tu n'es rien. Et. Salman a répondu Ana ibn al-Islam, je suis fils d'Islam. Et Omar, qui était à côté de lui, s'est levé, il a dit et moi je suis son frère. Donc vous voyez, c'est que ça est resté très 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 longtemps après. Et donc il existe beaucoup de conflits à cause du fait d'appartenir à un clan ou à un autre. Et donc on peut revenir au hadith, on sort un petit peu souvent un truc, mais pour revenir au hadith, donc première des choses, de voir un s'il abolit l'autre. Deux, on essaie de les rassembler dans un consensus, en fait, de dire ils sont complémentaires les uns des autres. Et quand ça s'avère impossible, on va essayer d'en faire un plus fort que l'autre. Et chacun va avoir des compliments. Et là, on va aller plutôt vers ce hadith parce que la chaîne de transmission est pour nous plus fiable, nous paraît plus fiable. Moi, je j'irai plus vers ce hadith. Les autres vont se dire, je vais plutôt ce hadith parce qu'il est conforté par des sourates du Coran, par d'autres hadiths, par ainsi de suite. Donc, chacun va essayer d'aller vers un sens ou vers un autre. D'accord? Ça, c'est concernant les hadiths qui sont du même niveau. Ils peuvent être à tous les niveaux. Hein. C'est bien dans les sahah, les hassan, les ziraf, bien sûr, les autres qui sont complètement abandonnés, qui ne se. Un truc, il n'y a pas de dessus. Il n'y a pas de discussion. Mais on ne peut pas faire attention. Ça, c'est, je parle bien de niveaux de hadith qui sont du même niveau. On ne peut pas imaginer que deux hadiths qui sont contradictoires, un qui est hassan et l'autre qui est sahih, on privilégie le hassan. On se dit, oh, ils sont contradictoires. Ah non. Il y a forcément sahih qui est plus fort. D'accord? On est bien dans un même niveau de hadith. Troisième question qui peut se poser, quand on a un hadith qui est en contradiction avec un autre hadith mais sans matn, c'est-à-dire rapporté sur un acte du prophète, c'est-à-dire que les paroles du prophète contredisent ses actes, il est évident que c'est deux hadiths pour nous. Donc on a un hadith où il y a des paroles du prophète et après on a les actes du prophète qui viennent contredire le hadith. Alors dans ce cas-là, il existe plusieurs, les savants bien sûr sont différents, ceux qui vont privilégier plutôt le hadith. Il dit on a un texte sûr, on ne va pas tenir compte de quelqu'un qui rapporte des actes du prophète. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à quelle date il a rapporté sur ces actes-là. Vous comprenez? On ne sait pas. Historiquement, le gars ne dit pas à quel moment il l'a rapporté. Il y a peut-être le hadith a aboli les actes que lui il a rapportés, mais on ne le sait pas. Donc on va privilégier plutôt le hadith dans ce cas-là, le hadith, le contenu du hadith. Et d'autres, ils ont dit non, on va privilégier l'acte. Pourquoi? Parce que l'acte s'est perpétué alors que le hadith a peut-être été aboli. Et là, on est dans les deux sens. Et d'autres vont essayer de les rassembler. On va se dire qu'à un certain moment, et c'est ce qui explique le hadith, le comportement était comme ça et l'acte est venu après corrigé, ou on faisait l'acte de cette manière-là et le prophète est venu le rectifier par un hadith. Donc on va avoir beaucoup de choses, et d'autres qui vont les considérer comme vraiment antagonistes, l'un opposé à l'autre, ils vont aller chercher quelque chose qui les réconforte ailleurs, un autre hadith qui vient soutenir un des actes ou un du dire. Par exemple, si on prend l'imam Malik, quand il avait ce problème là entre un hadith et un acte du prophète, il se référait à quoi? Aux actes des gens de Médine. Pour lui, les actes des gens de Médine étaient une preuve suffisante que c'était ce qu'il fallait faire, puisque ça s'est perpétué à travers les générations, ce que faisait le prophète. Et donc s'il a un hadith qui dit qu'il faut faire une chose de telle manière, lui dit, le hadith, j'en tiens pas compte, parce que les actes des gens de Médine ne viennent pas le conforter. Pour, par exemple, un exemple de cela, c'est le jeûne des 6 mois de Shawwal, le mois qui suit Ramadan. Les gens de Médine, à l'époque de l'imam Malik, ne jeûnaient pas ces mois-là, ces 6 jours-là. Ces 6 jours-là. Et donc, ils considéraient que c'était une bid'a, que c'était une invention et que ça n'a jamais. Alors qu'on a un hadith sahih qui vient dire que ceux qui se jeûnent. Qui jeûnent le mois de Ramadan et qui font le suivre de 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'ils avaient jeûné toute l'année. Et donc, on a les actes des gens ou la pratique du prophète, parce que là, ils se rapportent sur le fait qu'on n'a pas, de preuve que le prophète les a jeûnés ces 6 jours-là, pour lui, du moins. Et donc, on a une opposition entre hadith et un acte du prophète. Et donc, dans ce cas-là, il va privilégier, il va chercher la raison ailleurs, c'est-à-dire dans les actes de Médine, des gens de Médine, pour prouver que c'est ça la référence. Et dans ce cas-là, il existe beaucoup, beaucoup de choses, dans les actes aussi. Dans les actes. Et quand les actes sont de même poids, par exemple, souvent, on trouve ça dans les doigts. On a, par exemple, pour Shahad, on a 3 ou 4 différentes qui ont été rapportées, ils sont tous au même niveau. La Shahad, c'est ce qu'on récite. Non, c'est Tashhid, c'est quand ce qu'on récite à la fin de la prière. Et on a des textes différents. Et dans ce cas-là, donc on a forcément des textes différents qui sont tous justes. Et comment on fait? Parce que là, c'est une contradiction flagrante. Et on peut pas. Alors, la manière de le faire, c'est de dire, ils sont tous justes, donc on a le choix, on choisit n'importe laquelle. D'accord? Dans ce cas-là, on choisit n'importe laquelle. Et quand on a donc une contradiction entre les actes et les dires du prophète, là, on va essayer, chacun va essayer tantôt de privilégier l'un, de les ramasser pour en faire un truc, de les expliquer l'un par rapport à l'autre, et ainsi de suite. Ça, c'est concernant le fait qu'on quand l'acte vient contredire la parole ou quand la parole vient contredire l'acte du prophète. Et il y a beaucoup de hadiths là-dessus. Hein. Ça, on relève beaucoup de hadiths qui viennent déjà. Alors, il y a aussi une chose, c'est quand on a. Ça c'est un peu plus différent, c'est que quand on a deux hadiths qui ne sont pas des citations du prophète qui viennent se contredire, qui sont en fait rapportés par les prophètes, par les compagnons, et on rapporte des actes du prophète, mais ils viennent se contredire tous les deux. Je prends l'exemple de celui-là, des hadiths qui ont été rapportés par Anas, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit qu'il a vu, où il a apporté des pierres au prophète qui a uriné le long d'un mur debout. Et le hadith de Aïcha qui dit, celui qui vous dit que le prophète a uriné debout est un menteur. On a deux hadiths qui sont rapportés par deux personnes, mais sans citer le prophète, sans citer un hadith du prophète, ils rapportent un acte du prophète. Un qui dit qu'il a vu le prophète uriner debout, et l'autre qui dit, celui qui vous dit que le prophète a uriné debout est un menteur. Donc on a deux choses qui sont contradictoires. Et dans tous les éléments, quand on a deux choses contradictoires, on va chercher d'abord à les rassembler, après à les expliquer l'un par rapport à l'autre, ou à en privilégier un par rapport à l'autre. Dans tous les cas, dès qu'on a deux contradictions. Et donc, dans ce cas-là, on abordera le problème concernant le fait de faire ses besoins. On peut privilégier l'un ou l'autre pour certaines raisons, et ainsi de suite. Mais on a, évidemment, deux choses différentes. Maintenant, notre question, quand on considère qu'un hadith il est sahih ou qu'il est acceptable, mais qu'un des savants évoque qu'il a un gros problème dedans, dans le hadith,
de langue,
de non, un problème quel qu'il soit, dans la chaîne de transmission, dans le maître,
d'accord,
donc on le considère en règle générale comme étant un hadith sahih, mais on se dit, il y a un savant qui va le critiquer et le critiquer sévèrement pour un gros problème. Là, on rentre dans un problème, il faut voir la justification de la personne qui attaque le hadith. Pour quelle raison il le fait ? D'accord ? Si un hadith est unanimement accepté, ou plus ou moins accepté par un grand nombre de savants, et que un savant honorable, bien sûr, on ne parle pas d'un petit gars que personne n'a jamais entendu parler, qui critique, mais un savant très honorable qui critique ce hadith-là, comment s'en sortir, surtout quand c'est un gros problème qui est très important. Je prends l'exemple, c'est la reconnaissance de l'eau pour les ablutions. Il y a deux écoles sur l'eau, comment reconnaître qu'une eau est pure ou qu'elle n'est pas pure. C'est-à-dire que c'est un peu utilisé par la prière et pas pour les ablutions ou pas pour les ablutions. Il y a deux écoles qui se passent sur deux hadiths différents. L'un qui dit, dès qu'on a l'eau, elle dépasse 200 litres, elle reste pure. Si vous trouvez de l'eau, il y a 200 litres d'eau dans un endroit, vous ne posez pas la question si elle est pure ou pas pure.
C'est une rivière, par exemple.
Ça, c'est beaucoup plus. Non, mais...
Un bac d'eau.
Un bac d'eau, plutôt. S'il y a 200 litres dedans, l'eau, elle est pure. Si elle est en dessous de 200 litres, elle n'est pas pure. Ça, c'est la première école. La deuxième école, elle dit, non, la quantité importe peu, il faut qu'une des trois qualités de l'eau ne change pas. Son odeur, son goût et sa visibilité. Il faut qu'elle soit pure pour toutes. Il ne faut pas qu'elle ait d'odeur, il ne faut pas qu'elle ait de goût et il ne faut pas qu'elle soit opaque. Il faut qu'elle reste transparente.
Ah, moi, je pense que la deuxième, c'est...
Non, ça, c'est deux avis de savants différents. Alors, il se base sur quoi ? Il se base sur un hadith qui est si l'eau atteint la capacité de deux jars, elle reste pure. C'est un hadith du prophète. Alors, ceux qui ont pris le fait de dire que donc, les deux jars, ils ont été estimés, c'est à peu près un peu plus de 100 litres, donc c'est 200 litres grosso modo. Donc, qui considèrent que ce hadith, il est bon, ils ont pris l'histoire des deux jars. Et les autres qui n'ont pas pris ce hadith-là, ils ont dit, ce hadith-là qui est accepté par les autres, ils ont dit, non, ce hadith, nous, on ne l'accepte pas. Alors, pourquoi ils ne l'acceptent pas ? La première des raisons, c'est aussi dans la chaîne de transmission. Les Malikites n'acceptent pas ce hadith-là, parce qu'il est rapporté par une mèche sur lequel Malik a parlé. En fait, il y a un problème entre les deux personnes. L'un a attaqué l'autre, il a attaqué dans son généalogie, et donc Melk a répondu, et donc il le considère comme étant un menteur. Donc s'il le considère comme un menteur, les Malikites ne prennent plus le hadith, son hadith à lui. Donc, et comme ça a été rapporté que par lui, ce hadith-là pour eux n'existe pas. Il est faux. Mais on voit très bien que là, c'est un problème de personne. Et que les autres, ils ont reconforté, ils prennent le hadith, ils prennent ce hadith à lui. Donc, on ne peut pas en considérer. Mais d'autres ont apporté d'autres arguments. Shafi'i a apporté d'autres arguments. Il dit, en fait, le problème, c'est que on dit deux genres, mais on ne dit pas la capacité des genres. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est basé sur zan, le doute, la supposition. On suppose que c'est des jarres de 100 litres, mais qui me dit que c'est des jarres de 100 ? Pourquoi c'est pas des jarres de 20 litres ?
Ouais, mais si elle peut se lever, ben on n'est pas forcément sûr que ce soit propre. Même si
non, 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 attends, on reste sur le contenu. On reste sur le contenu du hadith. Lui, il dit, on me dit deux jarres, mais on ne me dit pas que c'est deux jarres de 100 litres. Donc, il n'y a pas de. Donc, il y a des gens qui viennent conforter pour dire que les deux jarres sont des jarres de 100 litres. En se reportant à notre hadith, le hadith du Mi'raj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est au 7e ciel, il parlait des arbres, il dit leurs oreilles, les feuilles étaient aussi grandes que les oreilles des éléphants, et les gouttes de rosée dessus étaient aussi grandes que les jarres de Genève. Et donc il cite que la jarre de Genève, et la jarre de Genève, c'est tout le monde en Arabie connaissent ces jarres là et donc on sait que c'est des jarres qui faisaient 100 litres. Ils disent non, mais ça vous supposez. Il dit c'est des jarres qui ressemblent à un compostelle, ça veut pas dire qu'ils sont en liaison là, donc c'est plutôt exclusif qu'inclusif là. C'est pas parce qu'on dit qu'elles sont des jarres de tel endroit que ça exclut forcément tous les autres. Donc chacun va conforter son apport et par un hadith ou par un truc. Mais on restera toujours sur le même élément, c'est qu'on a un hadith qui va être accepté dans sa globalité par les uns et va être refusé par les autres. Et ça c'est très important. Parce que vous verrez que quand on va parler des ablutions, ça va en découler beaucoup, beaucoup de règles. Devant des règles. Par exemple, vous imaginez que vous arrivez vous avez deux jarres d'eau, enfin deux seaux d'eau. L'un est. Vous avez la certitude que l'un des deux est pur, et l'autre a été pris. Dans un bac, il y avait plus de 200 litres, mais vous doutez de son impureté. Si vous êtes maliquite, ça, il n'y a pas de problème pour vous. Vous approchez de l'eau, pas d'odeur, pas de goût, de l'eau pure, je fais mes ablutions avec. D'accord ? Même si vous avez vu, par exemple, dans le bac d'eau, une goutte d'urine tomber, ça ne change pas le goût, ça ne change pas le truc. Si vous avez la certitude que ça a été touché par une impureté et que la capacité pour vous elle est en dessous de 200 litres, pour vous, même si c'est une goutte, qu'elle ne va pas changer l'odeur, qu'elle ne va pas changer le goût, qu'elle ne va pas changer la transparence de l'eau, pour vous, cette eau est devenue impure. Vous ne pouvez plus faire vos ablutions avec. Parce que pour vous, la capacité. Enfin, la quantité d'eau qui doit rester pure, c'est une eau qui est supérieure à 200 litres. Du moment qu'elle est inférieure même d'un 10 litres à 200 litres et qu'il y a une goutte d'eau, pourtant une goutte ça ne va pas changer beaucoup, une goutte d'eau qui est tombée, ça devient de l'eau impure pour vous. Donc ça va changer un problème. Et si vous avez un seau d'eau réellement que vous pensez pure et un seau d'eau que vous pensez qui est réellement impure, qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là ? Puisque pour vous, la référence, c'est pas ni l'odeur, ni le goût, ni la transparence. Vous allez être dans un gros dilemme, parce que vous ne saurez pas identifier lequel des deux seaux est le pur. Alors qu'est-ce que vous faites dans un cas comme ça ?
Parce que je ne suis pas sûr, je ne prends pas ni l'un ni l'autre.
Voilà. Puisque on n'a pas la certitude. Donc dans ce cas-là, on va abandonner totalement l'eau pour revenir au tayammum, pour faire les ablutions sèches. Or que les ablutions sèches ne sont pas le wudu, hein. Ils sont que un compensatif. Bien que là l'eau existe, hein, on dit que l'eau, en fait, juridiquement on dit que l'eau existe réellement, mais elle est impossible juridiquement. C'est comme le malade qui ne peut pas utiliser l'eau parce qu'elle lui fait du tort. Le blessé, il ne peut pas faire ses ablutions parce que l'utilisation de l'eau va amener des infections sur lui. Donc l'eau, elle est bien présente, mais juridiquement, il ne peut pas l'utiliser. Et là, on se retrouve dans le même cas. L'eau, elle est bien présente, mais juridiquement, je ne peux pas l'utiliser parce que Si j'utilise l'eau, je vais devenir encore plus souillé qu'avant. Et donc je vais aller vers ce qui est sûr, le tayammum. Et quand j'aurai la certitude que l'une des eaux est la pure, je referai les wudu, je ferai les ablutions à ce moment-là. Donc ça va donc emmener énormément, énormément de différence. C'est ce qui va faire notre... Et évidemment, maintenant on sait que ce hadith, pour la majorité des gens, c'est un hadith sahih. Donc dans un hadith sahih, les gens ils vont dire en malikite, mais pourquoi vous doutez de ça? Pourquoi douter? Pourquoi vous regardez? On sait que c'est un hadith sahih. Ils disent non, mais eux ils le considèrent comme... Donc vous voyez la difficulté qui peut arriver quand on a des hadiths dans lesquels il y a un doute. Est-ce que c'est clair? On abordera ce sujet à fur et à mesure que ça va poser des questions. Le deuxième élément aussi, c'est quand un hadith est rapporté par un compagnon, mais que il est critiqué par d'autres compagnons. Ça c'est un élément un peu spécial. Ça. On a un hadith qui est rapporté par les compagnons, mais c'est les autres qui le critiquent. Alors comment se comporter dans ce cas-là?
Dans ce cas-là, il est considéré comme acceptable.
Oui, il est acceptable parce qu'il est rapporté par un compagnon. Le compagnon et le truc, il est. Mais
dans ce cas-là, il est contradictoire parce qu'il est de. Ce qu'on a dit tout à l'heure, non?
Oui, on va appliquer toujours le même. Voilà, ils ont le même niveau.
Bon,
voilà. Mais non, parce qu'ils disent que qu'ils se rapportent à... Non, vous avez pas mal compris la situation. C'est un hadith qui est rapporté par un compagnon. Il est critiqué par les autres. Ils ne disent pas que le prophète ne l'a pas dit. Ils critiquent ce hadith.
Peut-être qu'ils critiquent la manière de l'avoir rapporté.
Non, non. Ils disent que tu dis, c'est pas juste. Mais ils disent pas que c'est faux. Est-ce que vous saisissez la nuance?
Oui.
Un compagnon dit un hadith, par exemple. Je viens, je dis non, j'ai entendu le prophète dire le contraire. Là, il n'y a pas de problème. Tu comprends? On a deux arguments qui sont de même poids. Tu as entendu le prophète dire une chose, j'ai entendu le prophète dire le contraire. Donc, étant donné que moi j'ai entendu le contraire, je ne peux pas être d'accord avec ton argument, toi. Mais quelqu'un dit, j'ai entendu le prophète dire ceci, et que quelqu'un lui dit, non, c'est pas vrai. Il avance pas, il n'a pas dit que le prophète n'a pas dit le contraire. Il lui dit que ce que tu as entendu est faux. Il n'avance pas de justification. On a certains hadiths qui sont là. C'est un problème de... Alors, pourquoi ça pose des problèmes ces hadiths-là? Parce qu'on part sur le principe que de la sincérité de tous les compagnons. Si on a un compagnon qui accuse un autre de dire quelque chose qui n'est pas juste, on a un problème d'identification. Ces hadiths-là sont très rares. Il y en a très peu. L'exemple que je vous ai raconté tout à l'heure, le hadith de Aisha qui dit « Celui qui vous dit que le prophète a uriné debout est un menteur. » Donc elle va accuser un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence Anas, d'être menteur. Et évident que on le considère comme menteur, tous les hadiths qu'il va nous rapporter, on va les jeter. Est-ce que vous comprenez bien la chose? Donc, dans ce cas-là, comment faire? Dans ce cas-là, la règle de base est toujours la même. Un compagnon est un être sincère, un être fiable. Alors, c'est que la personne qui rapporte, qui vient critiquer, n'a pas été dans la situation dans laquelle a vécu l'autre. C'est tout simplement ça. Et je prends l'exemple de Aïcha. Pourquoi Aïcha dit... Le prophète, celui qui vous dit que le prophète n'a jamais uriné debout, celui qui vous dit que le prophète a uriné debout est un menteur, c'est que tout simplement elle se réfère à un seul fait, c'est que chaque fois que le prophète urine dans sa maison, à l'intérieur de chez lui, il le fait assis. Mais qu'elle n'était pas avec lui quand ils sont en pleine campagne ou dans des endroits bien spécifiques. D'accord ? Ou, c'est une interprétation personnelle, le prophète a interdit de uriner debout. C'est vrai qu'il l'a fait. Mais pourquoi ? Pour le fait de la projection de l'urine contre soi. Vous imaginez, vous êtes en pleine campagne, vous urinez debout, il y a du vent qui vient, paf, vous êtes recouvert complètement d'urine, là, vous vous lavez, c'est comme ça. Donc, uriner accroupi évite les projections, il apparaît, interdit, ou préférez qu'on ne l'urine pas sur des pierres. Parce que sur des pierres, elle n'absorbe pas l'urine, elle va se rejeter contre... Tout ça en but pour éviter la souillure de l'urine. Mais il est évident que s'il est dans un endroit complètement protégé contre un mur où il n'a aucune chance d'avoir des projections, uriner debout ne paraît pas être quelque chose d'interdit ou pouvant le souiller. Donc il est possible qu'il l'ait fait. Et donc si un compagnon le rapporte, il n'y a pas de raison de ne pas le croire. Mais il n'y a pas de raison de ne pas croire Aïcha, sauf que dans ce hadith-là, Aïcha a fait un excès. Alors, il aurait été beaucoup plus simple de vous dire, si quelqu'un vous a rapporté que le prophète a uriné debout, moi je ne l'ai jamais vu faire. Elle a été beaucoup plus proche que de dire, c'est un menteur. Vous comprenez, c'est le qualificatif de Aïcha qui va poser problème plutôt qu'en fait que le fait qu'elle ait rapporté quelque chose. D'accord ?
Non, parce qu'elle n'est pas tout le temps avec lui.
Voilà. Et ainsi de suite dans plusieurs d'autres hadiths. Par exemple, celui de... Et quand le par contre, alors, notre question, quand un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient contredire un acte d'un compagnon. C'est une autre chose. Parce que vous savez que les actes des compagnons, on s'en réfère aussi pour dire que les hadiths sont authentiques. Parce que si les compagnons le faisaient, c'est qu'il a entendu le prophète, il a rapporté du prophète, il faisait exactement ce que disait le prophète. Alors, si un hadith vient contredire un acte du compagnon, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Alors, la règle, elle est simple, dans ce cas-là, c'est que on se base sur ce que rapporte le compagnon, pas sur ce qu'il fait. La justification, c'est ce qu'il rapporte. Alors, en arabe, on dit « Al-akhdhu bima rawa la bima ra'a ». On prend ce qu'il rapporte et pas ce qu'il fait lui-même.
La théorie plutôt que la pratique.
Non, ce qu'il a rapporté, les textes qu'il a rapportés. C'est ça qui est là-bas. Ce qu'il fait lui ne vient pas justifié s'il vient en contradiction. L'exemple de ça, ce que je vous ai dit concernant la purification de l'ustensile de la base du chien, c'est qu'Abu Huraira ne les lavait que 3 fois, alors qu'il a rapporté le hadith disant qu'il faut les laver 7 fois. Alors les Hanafites ont pris le hadith, le fait d'Abu Huraira, en disant si on le nettoie 3 fois, ça suffit largement. Et notre preuve, c'est le comportement d'Abu Huraira. Et les autres, ils disent non. Abu Huraira, il a rapporté qu'il faut le laver 7 fois. Si lui, il fait 3 fois, ça le... On ne le prend pas. C'est ce qu'il rapporte qui est important, pas ce qu'il fait lui. D'accord ? Donc ça, c'est la règle générale. Alors, maintenant, est-ce que la vie d'un compagnon peut être une preuve ? Alors là, la vie, c'est la vie du compagnon. On n'a pas de texte, on n'a que des comportements ou de la vie des compagnons qui sont aussi, font partie de la sunna, je vous rappelle.
La vie
des...
La vie des compagnons, leur jugement.
D'accord.
Alors là, on rentre dans un... Ils font partie de la sunna, puisque le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa al-rashidin. Vous devez compter sur ma sunna, ma pratique, et celle des compagnons bien guidés, ou des dirigeants bien guidés, ou des khulafa, des califes bien guidés. Et il est aussi, il a dit, il a interdit aussi d'insulter ses compagnons, de suivre leur exemple. Et le Coran vient dire aussi qu'ils ont, chez les musulmans, un niveau le plus haut لقد عفى الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه يوم العسرة. Dieu a pardonné, a lavé les péchés du prophète, des immigrés et des Médinois, les alliés qui ont protégé le prophète et qui l'ont aidé à... Dieu les a pardonnés dans sa globalité, donc ils ont un niveau par rapport aux autres musulmans qui sont pas... Et donc ils sont un exemple pour nous que nous devons suivre. C'est un des textes fondateurs aussi du fait qu'on considère que ce que rapportent les compagnons du prophète, c'est juste, puisque Dieu ne peut pas les avoir pardonnés si après, lui qui sait tout, ils vont mentir sur le prophète. Donc, on a plusieurs avis. Alors, l'avis qui dit, on se contente de prendre le texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des quatre califes qui l'ont suivi, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Ça, c'est une obligation de les suivre. Donc, on prend les quatre, le texte dans son sens. Et l'autre, une autre catégorie, il dit, en fait, on doit suivre tous les compagnons, mais dans un certain classement. Alors, le classement, on va le faire dans le ordre des khulafa, des califes. Donc, après le prophète, celui qu'on va suivre le plus, c'est Abu Bakr. Après Abu Bakr, c'est Omar. Après, c'est Othman, c'est Ali. Et on va classer tous les compagnons après, en les classant par ceux que le prophète a donné il a cité le mérite plus que ceux que donc il n'a pas cité le mérite. Donc on va trouver Talha, Ibn Abbas, on va les classer ainsi de suite. Donc de toute manière on tient compte, Imam Ahmed ibn Hanbal tenait compte de la vie des compagnons dans son truc. Quand il ne trouvait pas un texte, il prenait ce que faisaient les compagnons, c'était une preuve pour lui. Il n'avait pas besoin de texte pour ça. Et dans un certain sens, l'imam même faisait pareil. Il prenait les actes des gens de la ville comme étant une preuve acceptable pour lui. Ahmed ibn Hanbal faisait pareil. Et le Hanafiya, Abu Hanifa et Shafi'i, dans une certaine manière, disent non. C'est un avis. Ils sont libres d'avoir l'avis qu'ils veulent. Et si mon avis est contradictoire aux autres, je n'ai pas à prendre leur avis à eux. D'accord ? Même s'ils privilégient dans certains cas une personne plus qu'un autre. Par exemple, Abu Hanifa avait une très grande admiration pour Amr ibn al-Aziz, celui qu'on considère comme étant le cinquième calife bien guidé qui a vécu 70 ans après la mort de Ali. Donc il est vraiment très loin de la truc, mais il a gouverné que pendant 2 ans, mais il a gouverné de telle manière qu'on dit qu'il a ramené le pouvoir comme il était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit la capacité de cet homme-là. Et Abu Hanifa, tout ce qu'il avait décrété Ibn al-Aziz, pour lui c'était une sunna applicable à 100%, vous voyez. Donc, mais il va critiquer les compagnons du prophète pour certains... l'exemple le plus flagrant pour ça, c'est que il considérait que le masque essuyé, lustré sur les chaussures pour faire la prière pour le voyageur, pour lui était quelque chose de... D'abord, il ne tenait pas compte du hadith parce que pour lui, dans sa chaîne de transmission, il était faible. Et quand Abu Hanifa trouvait le truc, il essayait de comprendre par un raisonnement logique. Et il ne voyait pas la nécessité de ça. Il dit, voilà quelqu'un qui va se laver les mains, les bras, les coudes et tout, et pourquoi il essuie sur ses chaussures? Il peut se laver les pieds aussi. Et, parce que les parties qui ont été lavées sont supérieures à la partie qui ne vont pas être lavées. Alors, où est la difficulté? Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Parce que le fait de se laver les bras, tout le visage, d'essuyer les trucs, les oreilles et tout, et après j'essuie juste sur les chaussures, pourquoi je ne me lave pas les pieds? C'est pas une partie qui va prendre beaucoup de temps. Il ne voyait pas la nécessité. Et il contestait beaucoup de choses concernant. Et il est, on lui a rapporté des hadiths, le comportement des prophètes et tout. Et il ne voulait pas. Mais pour lui, le hadith, il est douteux pour lui. Dans sa chaîne de transmission, il ne le tenait pas. Il acceptait le comportement des compagnons. Mais il dit, c'est pas une preuve. Pour lui, c'est pas une preuve. Parce qu'ils avaient un avis, moi j'ai un autre, c'est pas une preuve. Et donc lui exigeait que quand une personne fait les ablutions, qu'elle lave les pieds aussi. Il n'accepte pas le masque. Jusqu'à 3 jours avant sa mort. Et 3 jours avant sa mort, on lui a rapporté un hadith d'une autre chaîne de transmission à laquelle il a adhéré. Et pendant les 3 jours qui ont précédé sa mort, il a fait réunir tous ses élèves pendant lui, et il a fait, donc il a fait le wudu, il a mis des chaussures, et pendant les 3 jours, il a essuyé sur ses chaussures, et il disait, ça c'est ma sunna, voilà ma sunna, voilà ma sunna, voilà ma sunna. Donc pour que ses élèves rapportent qu'il a fait l'essuyage sur la chaussure. Et il dit, et la plupart des savants disent pareil, ils disent qu'en fait, eux, ils vont vers là où leur cœur s'apaise, mais que si après leur mort on s'aperçoit que ça contredisait la réalité, il faut aller abandonner ce qu'ils faisaient eux au détriment de ce que le cœur, vers lequel le cœur s'apaise. D'accord ? Donc on peut dire que de nos jours, quand on a un problème, on va se diriger vers les hadiths les plus sahih et vers les critiques les plus sûres, et dans un cas il y en a, vont être très limités, on aura des choix et chacun sera responsable du choix qu'il fera. Mais dans un doute, il faut éviter le doute. Voilà. Donc ça c'est en grand résumé, mais il y a beaucoup d'autres problèmes qui vont se poser dans les hadiths. On les verra à fur et à mesure par rapport à l'évolution des cours, inshallah. Donc la semaine prochaine on aura un cours où on va continuer. Donc en fait on a vu pour l'instant on a vu que deux justificatifs, la jurisprudence qui est le Coran et la Sunna. Et la semaine prochaine on verra les deux éléments qui sont, on va les concentrer dans un cours, et les éléments suivants qui sont le consensus et l'analogie, l'ijma' al-qiyas, qui sont les deux autres éléments qui sont la base de la jurisprudence. Et dans un cours, on va aborder une dizaine ou une quinzaine d'éléments qui sont, les savants ne sont pas d'accord sur leur, bien que sur les autres non plus. Mais on peut estimer que le, si on est les gens de la sunna et de l'ijma, ce qu'on appelle sunna et l'ijma, c'est les sunnites par rapport aux chiites, ils sont d'accord sur 4 éléments de base qui sont la justification, et après ils vont prendre plus ou moins d'un autre élément. C'est que ils sont d'accord sur que la justification peut être le Coran, la sunna, le consensus et le qiyas. Mais à l'intérieur, il y aura des différences, ce qu'on a essayé de voir. Mais ça forme, je dirais, un consensus, alors que c'est des preuves. Et après, il y a des éléments qui vont être utilisés par les autres comme étant des preuves, ce qu'on vient de dire. Pour certains, la conduite d'un compagnon est une preuve, pour l'autre, c'est pas du tout une preuve. Pour Melk, le comportement des gens de Médine, c'est une preuve, mais pour les autres, c'est pas du tout une preuve. Et ainsi de suite, on verra tous les éléments. Et on aura terminé, Inch'Allah, la semaine prochaine, avec donc les preuves de la jurisprudence, les preuves qui sont avancées, et on commencera par Matn al-Ashmawiyya, donc à étudier le premier texte juridique qui a été fait par l'imam al-Ashmawi, qui explique, qui résume en partie, selon le rythme malikite, tout ce qu'un musulman doit faire dans sa vie de pratiquant, en commençant par le wudu et ainsi de suite. Et à l'intérieur, cette année, on va se contenter d'étudier que ça, parce que c'est le rite majoritaire en Afrique du Nord et en France. Mais vous verrez que quand on va les utiliser, on va aborder les différences entre les Mélikites et les autres sans apporter forcément les preuves, en se concentrant plus, mais en disant que d'autres les écoles juridiques sont, sont contraires à ça. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.